Bonsoir alors, à toutes et à tous, merci d'être venus. Merci à la librairie Mola de nous accueillir pour ce moment d'échange sur l'eau. Donc l'Agence de l'eau Adour-Garonne, dans le cadre de la Journée mondiale de l'eau qui se tient chaque année le 22 mars, et de l'année 2013 un peu exceptionnelle puisque c'est une année consacrée internationalement à la coopération et à la solidarité en matière d'eau, a décidé d'organiser cette semaine plusieurs moments de débat, plusieurs rencontres autour des enjeux de l'eau. Et donc ce moment s'inscrit dans cette programmation qui se tient à la fois sur Toulouse et sur Bordeaux. L'idée étant d'échanger sur les grandes questions qui se posent en matière de gestion de l'eau, les progrès accomplis, mais aussi les efforts qui restent à faire pour un meilleur partage de l'eau, puisque l'enjeu il est là, sur le partage de la ressource entre les différents usages. Donc je remercie Madame Pellet qui est là ce soir de nous faire partager le travail qu'elle a réalisé, très pédagogique, sur toutes les grandes questions, en tout cas les questions essentielles qui se posent en matière de gestion de l'eau. Donc je lui laisse volontiers la parole pour nous présenter à la fois son ouvrage et les points principaux qui peuvent faire sujet d'échanges sur les problématiques de l'eau.
Bien, merci aussi à la librairie Mola de permettre de parler de cet ouvrage. Moi, quand on m'a proposé de faire cet ouvrage, je dois dire que ça m'a passionnée parce que je trouve que le public sous-estime beaucoup les problèmes de l'eau. Et c'est très bien illustré par des proches qui disent que l'eau est un liquide translucide qui sort du robinet. Et justement, cette espèce de facilité que nous, en tout cas dans nos pays, nous avons, fait méconnaître l'importance des problèmes et surtout la technicité des problèmes qui sont derrière tout ça. Donc la partie la plus intéressante, pas la plus intéressante, mais je dois dire, qui a été passionnante, c'est le choix de 100 mots. Comment choisir 100 mots qui permettent de faire le tour des problèmes sur l'eau ? En particulier, à commencer que l'eau est vitale. Et d'ailleurs, sans eau liquide, pas de vie. Et la première chose que les astrophysiciens regardent dans les planètes quand ils cherchent la vie, c'est s'il y a de l'eau. S'il n'y a pas d'eau liquide, c'est même pas la peine de chercher. Nous sommes faits de 70% d'eau. Et nous pouvons survivre un mois sans manger, mais pas plus de deux jours sans boire. Donc l'eau est vraiment cruciale pour nous. Alors, c'est curieux parce que cette petite molécule d'eau, elle a l'air totalement anodine. Un oxygène relié à deux hydrogènes par la liaison chimique bien solide qu'on a tous appris à l'école. Mais à côté de ça, l'eau peut faire des liaisons hydrogènes. C'est-à-dire les deux hydrogènes de l'eau peuvent se lier par liaison hydrogène qui sont 50 fois moins fortes que la liaison covalente, qui se remanie des mille milliards de fois par seconde, tel point que les chercheurs aujourd'hui n'hésitent pas à appeler cette liaison la liaison de la vie, parce qu'on se demande si c'est pas cette remodulation perpétuelle des liaisons hydrogènes qui commande les assemblages, désassemblages des molécules organiques qui nous composent. Et d'ailleurs, l'ADN, si on prend de l'ADN déshydraté, il n'a plus aucune propriété, c'est plus une double hélice. Et c'est les liaisons hydrogènes qui tiennent cette double hélice fermement structurée. Et en fait, curieusement, étant fait de 70% d'eau, nous sommes bien solides sur nos deux pieds grâce à l'eau. On est solide grâce à l'eau, c'est un peu un paradoxe, c'est grâce aux liaisons hydrogènes de l'eau. Alors, donc cette eau vitale, quelles sont justement les ressources en eau sur la Terre pour assurer nos besoins en eau ? Mais en fait, on est un peu comme le radeau de la Méduse, parce que sur Terre, il y a 97% d'eau salée, d'eau de mer salée, donc impropre à la consommation. Il y a 2,1% d'eau coincée dans les glaces des pôles. Et le peu qui reste, eh bien, depuis deux siècles, nous le polluons soigneusement, donc il est impropre à la consommation en l'état. Ça, c'est le premier enjeu. Comment dépolluer ce que nous avons bien pollué pendant des décennies et des décennies. Et alors, les ressources en eau non salées, elles sont assurées par ce qu'on appelle le grand cycle de l'eau, c'est-à-dire le soleil fait évaporer l'eau et qui devient de l'eau non salée, qui devient de l'eau douce dans les nuages. Et les courants atmosphériques ont le bon goût de ramener ces nuages sur la Terre pour que l'eau retombe sur la Terre et ne retombe pas dans la mer. Donc, et toute goutte d'eau qui retombe sur la Terre tombe dans un bassin versant. Un bassin versant, c'est-à-dire il va s'infiltrer, ruisseler, retomber dans les ruisseaux, les rivières, les fleuves et retourner à la mer. Et ces bassins versants, donc quand l'eau tombe dans un bassin versant, toutes les activités de ce bassin versant impactent cette eau. C'est-à-dire que comme l'eau est un solvant quasi universel, eh bien, c'est sûr que, en plus, si l'eau est capable de couper des grosses molécules en molécules plus petites. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'eau va charrier tous les sels minéraux, mais aussi tous les polluants qu'elle va rencontrer. Donc, on se retrouve avec une eau qui est bien, qui garde bien l'empreinte de tous les terrains qu'elle a traversés. Alors, ça veut dire que, comment dire, les ressources, en plus, sont très inégalement réparties, parce qu'il y a le problème, déjà, des pollutions dans les bassins versants, mais en plus, on a 10 pays qui se partagent 60% des ressources en eau. Qui plus est, il y a des pays... il y a à peu près 300 fleuves et une centaine d'aquifères qui sont partagés entre plusieurs pays. Résultat, les pays en amont peuvent être très mal polis pour les pays en aval. Par exemple, et quand je dis mal polis, pareil, c'est gentil. Par exemple, l'Inde a détourné les eaux du Gange, a séché le Bangladesh, et ne parlons pas du Jourdain, qui est le fleuve de la discorde au Moyen-Orient, puisque Israël, en s'appropriant le Golan, s'est approprié en fait le château d'eau de l'autorité palestinienne, du Liban et de la Syrie, mettant à sec complètement la Palestine, puisque on considère qu'un pays est en stress hydrique. Lorsque il a moins de 142 à peu près mètres cubes par personne et par an, bien la Palestine, elle est à 60. Donc elle est réellement, réellement en stress hydrique. Donc se rajoute une guerre de l'eau sur les guerres, sur les conflits. Alors, une fois qu'on a ces ressources, c'est bien joli. Alors il faut aussi rajouter que les différences climatiques aujourd'hui, c'est-à-dire les extrêmes climatiques, rendent les choses encore plus difficiles. Parce que du coup, les précipitations deviennent erratiques et plus difficiles à gérer qu'avant. C'est moins le réchauffement que les extrêmes, les hauts et les bas, qui rendent les choses de plus en plus difficiles. Alors, de plus en plus difficiles pour satisfaire nos usages. Nous, en France, on consomme en gros 150 litres par jour d'usage d'eau domestique, dont seulement 1% est destiné à la boisson. Mais nous consommons 20 fois plus à travers nos aliments. Parce que la grosse consommatrice d'eau, en fait, c'est l'agriculture. Puisque dans le monde, l'agriculture consomme 70% de l'eau pompée. En France, on a la chance que l'agriculture irriguée n'est pas aussi importante, donc c'est que 9%. Mais il faut rajouter à ça les pluies, si bien que ça fait l'agriculture consomme 93% de l'eau entre pompée et ce qui tombe du ciel. Et en France, c'est près de 50%. Si bien que quand nous consommons des aliments, eh bien, nous consommons toute cette eau virtuelle qui a été utilisée pour les produire. Donc ça, c'est un vrai problème. Alors, c'est donc l'agriculture qui est le plus gros consommateur. L'industrie est de moins en moins consommatrice pour deux raisons. D'abord, parce que le tissu industriel est moins important, enfin, en tout cas en France. Et puis parce que l'industrie a appris quand même assez vite que l'eau était trop précieuse pour être utilisée qu'une fois, et donc a appris assez vite à recycler son eau, aussi bien pour les problèmes d'eau de refroidissement, chauffage, que des problèmes d'eau dans les process industriels. Alors l'ONU en 2010 a très généreusement reconnu le droit à l'eau pour tout le monde. C'est bien joli, mais l'ONU n'a pas les moyens de faire appliquer ce droit à l'eau pour tout le monde. Parce que la production d'eau potable et l'assainissement, qui est déjà un maillon très fragile dans nos pays, devient carrément miracle dans des pays en voie de développement où ni la volonté politique ni les moyens ne sont là. C'est clair. Et en plus, curieusement, alors que l'eau est vitale, eh ben, ce n'est pas des arguments électoraux. Ce qui est un paradoxe, moi, qui rationnellement me dérange. Mais c'est comme ça. Si bien que, sur Terre, il y a quand même 4 milliards de personnes qui n'ont pas l'eau courante à domicile et 4 milliards de personnes qui ne sont pas raccordées au tout à l'égout. Résultat de ça, la quantité d'eau non potable consommée qui tue plus que les guerres, puisque il y a 2 millions de morts dues aux consommations d'eau non potable. Alors maintenant, je disais que c'était un maillon fragile même dans nos pays et que c'était. Alors déjà dans nos pays, comment ça marche? Alors on cite beaucoup le modèle français, comme un modèle très intelligent de gestion de l'eau par bassin. Il y a 6 bassins versants, plus la Corse, qu'on met à part, je ne sais pas pourquoi, donc 6 agences de... parce que c'est à part. Donc on va parler de l'Hexagone, il y a 6 bassins versants, 6 agences de l'eau, et donc qui gèrent l'eau par bassin versant, les agences de l'eau étant... Les personnes présentes de l'agence de l'eau me reprendront si je dis mal, sont en fait les instruments de gouvernance de l'eau locale par bassin et des instruments financiers aussi. En fait, le problème en France, c'est que l'eau est un service public, ça c'est bien, mais que chaque commune est responsable de l'eau et de l'assainissement. Or, en France, nous avons beaucoup, beaucoup de communes, et les petites communes sont bien incapables d'assurer seules une production d'eau potable et un assainissement correct. Donc, elles se regroupent, certes, mais très souvent, les communes n'ont pas le personnel et la connaissance technique nécessaire pour faire les bons choix. Ça, c'est sûr. Et les instances nationales ont bien du mal à faire respecter des directives et la loi sur l'eau, donc des directives nationales, avec cet émiettement des responsabilités et cette décentralisation. Alors, c'est sûr que le bassin versant, c'était une trop grande échelle pour gérer à l'échelle de la commune. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on allait rajouter par-dessus ça des plans à 5 ans, des schémas directeurs à 5 ans, à 20 ans, plus au niveau de l'aquifère, pour arriver à gérer mieux, au plus près des communes. Puis après, on s'est dit, il va falloir dépolluer, on est censé remettre en bon état écologique toutes nos eaux. Et ça, c'est très technique. Donc, on a rajouté un organisme qui s'appelle l'ONEMA, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, qui est plus technique. Alors, le problème de tout ça, c'est que ça, c'est censé fonctionner très bien, mais c'est un peu millefeuille administratif. Alors, ça fonctionne bien quand tout le monde s'entend bien, et ça fonctionne moins bien quand il y a des conflits d'usage, quand il y a des aquifères, quand il y a des captages qui mettent très très longtemps à obtenir non seulement les autorisations, mais les périmètres de protection, etc. Donc ça, c'est un peu plus compliqué. Si bien que, effectivement, c'est souvent les petites communes qui, parmi le pourcentage de communes en France qui délivrent de l'eau non potable, c'est en général des petites communes qui n'ont pas la technicité pour ça, ou qui croient pouvoir faire toutes seules, et non. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, ce qui m'a le plus fasciné, c'est quand j'ai été voir pour écrire le livre, les filiales des opérateurs qui sont des filiales techniques, comme de Grémont, par exemple. Je cite eux, mais ça pourrait être rien à d'autre. Et j'ai été totalement fascinée par la physico-chimie qu'il y a derrière tout ça. Nous, quand l'eau coule du robinet, on décide qu'elle est potable. Mais la complexité des dispositifs pour s'adapter aux nouveaux polluants, pour faire la course aux normes, c'est comme les canons et les cuirasses. Alors, il y a de plus en plus de nouveaux polluants, donc il y a des normes de plus en plus coercitives. Mais du coup, les gens qui sont censés ensuite techniquement fabriquer l'eau potable ont des problèmes techniques de plus en plus complexes. Idem pour l'assainissement, parce qu'avant, on assainissait un peu, puis après, on rejetait les boues dans la nature. Maintenant, c'est en principe interdit, il faut que ça soit homologué, c'est plus compliqué. Donc, de la même façon, par exemple, ces boues, elles ont beaucoup trop d'eau pour essayer de limiter. Ils sont en train d'utiliser des presses à jus de pomme pour essayer d'éliminer mieux les eaux des boues d'épuration. Donc, il y a des transferts de technologie comme ça. Et c'est assez fascinant, toute la technique qu'il y a derrière cette production d'eau potable. C'est pour ça que je dis, c'est miracle. Bon. Alors, le dernier point, effectivement, qui est problématique, c'est qu'on produit de l'eau potable, mais quelquefois, l'eau n'arrive pas potable chez le consommateur. Parce que, là aussi, le remplacement des vieilles canalisations... c'est pas réellement un argument électoral, ça se voit pas beaucoup, les canalisations sous terre. Donc, les canalisations en plomb qui font que l'eau arrive pas potable chez vous, des canalisations qui ont plus ou moins des fuites, et donc l'eau qui s'infiltre, l'eau non potable qui s'infiltre dans les canalisations. Donc, tout ça est quand même pas si mal géré que ça en France. Quand on regarde, toutes les communes sont censées publier leurs résultats. Et je me suis amusée cet été, comme j'avais fait le tour de pas mal d'amis qui avaient des résidences secondaires dans des petites communes. Donc je me suis amusée à chaque fois à regarder si l'eau était potable, si je pouvais boire l'eau du robinet. Il y avait une commune où elle n'était pas. Mais j'avais demandé à mes amis, mais vous regardez ça, bien sûr, régulièrement. Non, jamais. Donc moi, ça me fascine, le fait que ça soit aussi important et que les gens négligent ça, trouvent que ça va de soi. Je pense qu'il faudrait qu'ils aillent dans ces pays où il n'y a pas l'eau du robinet, où les femmes font je ne sais pas combien de kilomètres à pied pour aller chercher l'eau et se font agresser en route, et où les gens n'ont même pas de toilettes privatives. Il faudrait que nous, qui avons cette chance quand même d'avoir une haute technicité, une organisation nationale, même s'il y a des... petits frottements quelquefois qui vont plus ou moins bien, on est quand même, on a un beau modèle qui se passe bien. Et pourquoi on n'est pas plus responsable? Pourquoi les pollueurs ne sont-ils pas toujours les payeurs? En particulier, pourquoi fait-on autant de cadeaux à la pollution agricole? Donc ça, c'est des vraies questions aussi. Il y a 100 mots, un feuillet par mot, c'est pas beaucoup. Parce que ça veut dire que, pour parler, par exemple, en feuilletant, là, je regardais dessalement d'eau de mer. Par exemple, le dessalement de l'eau de mer, c'est extraordinaire. Le dessalement de l'eau de mer, c'est 1% de la consommation mondiale d'eau potable, et c'est 10% de la production d'eau potable. Vous voyez la quantité d'eau potable qui est consommée entre 1 et 10%. Donc, 10% de la production d'eau potable, c'est beaucoup, et 1% de la consommation, ça veut dire qu'il y a beaucoup de consommation d'eau non potable.